Saguenay. Midi. Avec Simon Tremblay, Marc Tiquet et Fred Gagné.
h 25 hier dans l'émission, Fred, t'en as parlé aux nouvelles. On a même dégagé un petit bloc pour en discuter, toi et moi. On tasse un petit peu les histoires de nouvelles mesures puis tout le kit. Mais allons un petit peu plus sur le fond des choses.
Le côté financier administratif des choses.
Ben, c'est ça. T'sais, certains évaluent un montant X pour l'acquisition des vaccins au Canada. C'est contredit par d'autres personnes qui croient que le montant pourrait être le double. Puis par unité, dépendamment du fabricant du vaccin, ça coûte combien au Canada?
À un moment donné, il va falloir se poser la question. Comme dans tout, vous allez au resto. Moi, j'aime ça. Au début, tu vas au resto avec ta femme, tu commandes une entrée, une bouteille de vin, tu commandes ton plat principal, le petit café, le petit dessert, puis tu essaies d'avoir une belle discussion, le fun, puis à un moment donné, le bill arrive. Bon, c'est un peu la vaccination, c'est la même affaire.
Là, on parle de concurrence, d'entente de confidentialité. On ne peut pas dévoiler ces montants-là, même après toute la campagne.
Pourquoi?
De ventiler tout ça, ça a l'air bien compliqué. On va aller en parler avec Mario Simard, qui est député du Bloc dans Jonquière. Mario Simard, bonjour.
Salut, messieurs, ça va bien?
Ça va très bien,
salut.
Vous?
Oui, moi, je vous écoutais en introduction. Moi, la grosse question, la question à 100$ pour moi, c'est de savoir le prix qu'a payé les vaccins, le prix qu'a payé le gouvernement du Canada, les vaccins en décembre, janvier, février. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que on sait, Pfizer avait indiqué qu'il croyait pas qu'avant février, ils reçoivent l'homologation du Canada. Donc, dans les contrats d'approvisionnement, probablement qu'il y avait rien pour décembre, janvier, février, au niveau du Canada. Et comme le gouvernement avait peur de voir que t'as des Américains, t'as des Allemands qui se font vacciner, et t'as pas de Canadiens qui se font vacciner. J'aimerais savoir le prix qu'ils ont payé pour avoir ces doses-là en décembre, janvier, février, comme c'était pas dans leur plan initial. Et s'il y a une fluctuation importante entre ce qu'ils ont payé en décembre, janvier, février, et ce qu'ils ont payé après, là, pour, disons, fin février, début mars, jusqu'à aujourd'hui, eh ben, ça nous donnerait l'indication claire que le gouvernement fédéral a voulu faire de la politique avec le vaccin.
Ou encore, tout simplement, faire vacciner les gens avant. T'sais, ce serait bien difficile de leur en vouloir, d'un certain sens.
Oui, non, je comprends, mais les premières doses qu'on avait, c'était familique. Hein. Nous, on avait fait de nombreuses sorties en décembre pour dire, attention, il faut pas induire dans la population un faux sentiment de sécurité. Les doses de décembre, ça ressemblait plutôt à une opération de communication qu'à une vraie le démarrage là, d'une vraie campagne de vaccination.
C'est vrai.
Donc, c'est la question, c'est celle à savoir comment ils ont payé ces doses-là quand ils étaient pas supposés de les avoir en décembre et janvier, à tout le moins. Et là, il y a une transparence qui est nécessaire à ce niveau-là. Le gouvernement, je suis sûr que présentement, là, on nous sert le principe de la concurrence, là, mais je suis sûr que quand on fera un post-mortem avec le travail des oppositions, ils n'auront pas le choix de divulguer une partie de cette information-là. Et ce sera intéressant de voir comment ils ont payé le vaccin en début de campagne
vaccination. Vous êtes un politicien fédéral élu. Des bruits de corridor ou, je ne sais pas, des petits groupes internes, il n'y a pas des sommes qui circulent, les affaires. Vous n'avez pas des in, comme on dit?
J'ai pas. Là-dessus, j'ai rien entendu. Moi, j'ai fait le suivi parce que je suis aussi porte-parole pour la recherche et l'innovation. J'ai fait le suivi auprès de la production locale, ce qu'on pouvait faire dans la production ici au Canada en termes de vaccins. Puis là, il faut savoir que début des années 2000, là, le Québec, on est un pôle. Hein. On est un pôle en biotech, là, en pharmaceutique. Mais malheureusement, eh ben, comme il y aura plus de soutien de la part du gouvernement fédéral, les entreprises pharmaceutiques, on va les perdre. Ça, ça aurait été une possibilité. Et ce que j'ai su aussi après des discussions, en particulier avec M. Coblinger, c'est que au début, on a tout mis nos œufs dans CanSino. Mm-hmm. C'était le vaccin qui était fait en collaboration avec la Chine. Mais eux, sans être vulgaire, ils nous ont fait un enfant dans le dos. Si vous voulez, ils sont partis, ils sont virés de bord. Et puis, finalement, les essais cliniques, ils les ont jamais fait chez nous. On a perdu un temps énorme en croyant que on pouvait aller de l'avant avec CanSino. De sorte qu'on regardait pas nécessairement d'autres solutions. Moi, j'ai fait beaucoup d'interventions pour que les sommes qui ont été accordées à Medicago le soient rapidement. Et on avait un ministre qui était je dirais, un peu, qui manquait de sensibilité envers le Québec. C'était M. Bain, là, qui a été remplacé maintenant par M. Champagne. Donc, disons que M. Bain, pour le dire simple, manquait un peu de sensibilité envers le Québec, ce qui a fait que peut-être que le dossier de Medicago se retrouvait pas au-dessus de la pile. Donc, on a raté la production locale. Ça, il faut être clair là-dessus. On a raté la production locale. Maintenant, est-ce qu'on se fiait sur l'achat, les contrats qu'on avait? Assurément, mais ces contrats-là, ils devaient débuter à la fin du mois de février et au début du mois de mars. Donc, le prix, j'aimerais savoir pour fin février, début mars, mais j'aimerais surtout savoir celui en amont. Et là, ça va être révélateur de quelque chose, à mon avis.
Quand même, est-ce que le prix, lorsque on prend des décisions comme gouvernement, le prix du vaccin, parce qu'on pense que l'efficacité pour plusieurs est similaire d'un à l'autre, le prix doit être considéré aussi?
Ben, je suppose, mais on n'est pas dans un temps, on n'est pas dans un temps normal. Je veux dire, sortie de pandémie, tout le monde, là, tu sais, on la jouera pas politicienne. L'objectif de tout le monde, c'était de faire vacciner une majorité de la population. Et puis, c'est le discours qu'avait Yves François sur toute la gestion de la crise, là. Je sacrerai pas, mais au plus calife, tu sais, au plus maudit, là. Donc, donnons l'aide aux gens le plus rapidement possible. Essayons de contribuer en collaborant avec le gouvernement pour avoir accès au vaccin le plus rapidement possible. Mais il faut considérer, quand on fait ça, les indications que donne la santé publique. Moi, la crainte que j'avais en décembre-janvier, c'était si on induit un faux sentiment de sécurité puis qu'il y a un relâchement dans la population parce qu'on les a pas les doses suffisantes, là, eh ben à ce moment-là, on n'essaie pas de sortir de la crise. On fait une opération cosmétique de communication politique. Et ça, on l'a vu venir rapidement en décembre, janvier, que le gouvernement était là. Mais en même temps, eh ben, on ne jouerait pas notre rôle de législateur si on ne cherchait pas à débusquer les manques. Et puis, ce que la crise nous a fait comme démonstration, c'est que on est très mal préparé, on est dépendant des autres pays. On avait les infrastructures en biotech au début des années 2000. Ça aurait été facile de développer une partie, d'avoir la technologie de développer une partie du vaccin, même voire de Pfizer, là, puisque Pfizer était installé à Montréal au début des années 2000. Mais malheureusement, on a laissé aller ce créneau-là de côté. Je vous cacherai pas que j'ai beaucoup de rencontres ces temps-ci avec des gens qui tournent autour de la production de biotech. Et je vous cacherai pas que politiquement, c'est assez difficile de défendre des pharmaceutiques. Là, on est en période de crise, là, mais quelqu'un qui parle en disant qu'il faut investir dans les pharmaceutiques, généralement, le Big Pharma, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy non. À vendre politiquement. Mais là, la démonstration qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir une politique nationale qui est beaucoup plus cohérente que ce qu'on avait par le passé.
Vous avez parlé tantôt des premières doses qui ont peut-être été cher payé. On verra éventuellement si on réussit à avoir les données, mais par texto, il y a un travailleur de la santé qui nous dit « Je suis pas d'accord, parce que les doses de décembre et les suivantes ont permis de débuter la vaccination chez les travailleurs de la santé et le feu était pris pas à peu près dans ces secteurs-là. »
Oui, non, je vous dis pas qu'il fallait jeter tout ça, mais moi, j'ai l'impression que on a payé très cher pour avoir ces doses-là. Est-ce qu'on aurait pu, à partir du mois de février, est-ce qu'on aurait pu avoir une couverture aussi intéressante? Parce que c'était pas grand-chose. Si je regarde, je me rappelle pas exactement des chiffres, là, mais c'était moins que... La première livraison, c'était moins que 33 000. Je pense pas que tu as une couverture très, très efficace pour ça. Donc, c'est pour ça que j'aimerais voir le prix. Si c'était le même prix, ben, y a pas de souci, là. Ça change pas grand-chose. Mais si on a payé un prix qui est disproportionné, on s'est peut-être affaibli dans le pouvoir de négociation qu'on a pour après. Là. Il faut être conscient de ça aussi. Là.
Est-ce qu'au fédéral, ce type de rempart-là, de bouclier-là qu'on sort comme l'histoire de la concurrence, on peut pas dévoiler les prix en raison de la concurrence. Puis est-ce que il y a d'autres domaines que ça s'applique qui sortent cet argument-là ou c'est seulement celui-là des contrats avec les pharmaceutiques?
Disons que comme argumentaire, c'est commode.
Ouais.
T'as pas à révéler l'information.
Ben, c'est ça.
Ben, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent dans certains contrats publics parce que on cachera pas que des entrepreneurs privés veulent probablement pas savoir leur coût de revient. Je peux comprendre ça. Mais à l'inverse, il faut voir aussi qu'il y a une transparence qui est essentielle. Tu sais, si le gouvernement, il est imputable, il gère mes impôts, tes impôts, les impôts de monsieur, madame, tout le monde. Donc, en ce sens-là, il doit nous indiquer ce qu'il fait avec cet argent-là. Donc, la décision d'acheter des vaccins, de faire affaire avec Pfizer tout de suite, immédiatement, en décembre, ben, le prix qui a été payé, moi, j'aimerais le savoir. S'il est disproportionné sur les effets que ça a donné, ben, ça, c'est une indication que, politiquement, peut-être que le gouvernement n'a pas agi dans l'intérêt de la population, mais dans l'intérêt de sa formation politique pour avoir des Canadiens qui se fassent vacciner et qu'on voit pas uniquement des images à la télé d'Américains et d'Allemands là, qui reçoivent le vaccin. Moi, c'est ça, c'est cette information-là que je voudrais avoir.
Avant qu'on se quitte, justement, on a beaucoup parlé de la progression de la vaccination, de la situation aussi du virus versus de possibles élections. Où en est-on?
Ah, à mon avis, là, tiens, moi, je pense que au niveau de l'approvisionnement, on va réussir à avoir vacciné une majorité de Canadiens ou de Québécois pour la fête nationale. Quand M. Legault dit ça, c'est qu'il a les informations en sa possession et qu'il est capable d'atteindre ça. Maintenant, les variants font en sorte que la fenêtre électorale se rétrécit un peu pour le gouvernement fédéral. Personne ne veut se ramasser en élection au mois de mai avec des variants qui circulent, et puis faire des élections, je vais vous dire, sans pouvoir avoir de contact avec les gens, c'est intéressant pour personne. Mmh. J'entends tellement de spéculations, je vais vous dire, un jour, on est persuadé qu'on s'en va en élection pour le mois de juin, le lendemain, on se dit, eh ben ça va attendre probablement en septembre-octobre, mais maintenant, je vous dirais que sur la colline, le mood est plutôt à septembre-octobre.
Okay. Est-ce que je rêve ou la mise à jour économique qui avait été présentée il y a quelques mois et même pas encore votée, puis là, le budget s'en vient, c'est spécial?
Mais tu sais, il n'y a pas de temps linéaire au Parlement. c'est le gouvernement qui décide de l'agenda. À quel moment, tu sais, à la limite, tu peux déposer un budget et puis tu pourrais faire un mandat sur ton budget sans jamais le faire voter. Si tu ne l'appelles pas en chambre pour le débattre, tu pourrais vivre longtemps de cette façon-là. C'est pas l'idéal, là, on conçoit, mais effectivement. Donc, on attend le 19, le budget, ça va ressembler à quoi? Et moi, j'espère que dans ce budget-là, il y aura quelque chose de significatif au point de vue de la relance économique. Et en ce sens-là, eh bien là, demain, j'ai une grosse annonce. Ça fait un an qu'on travaille d'arrache-pied, Alexis et moi, sur un plan sur la foresterie, qu'on n'a pas pu déposer. Les études, on les avait fait faire en mars dernier. On sait ce qui s'est passé en mars dernier. C'était pas le temps de parler de foresterie. On était en pleine première vague. Donc, demain, c'est notre grosse annonce pour la région. Des retombées en emploi qui sont super intéressantes d'après nous. Si vous avez l'occasion, on pourra peut-être s'en reparler à un moment donné. On a fait faire un beau document là-dessus.
C'est bon, mais tu sais, pour les gens qui nous écoutent, ça devient difficile aussi de s'y retrouver parce qu'il y a des annonces qui se font tant pour la mise à jour que le budget. Puis finalement, c'est jamais appliqué. On a des questions, puis les gens suivent pas ça autant que vous, évidemment, parce que vous avez les deux pieds dedans. On en perd notre latin un peu.
Oui. Mais je comprends. Puis c'est pas convivial, disons, que le fonctionnement parlementaire. Mais moi, ce sur quoi je focus surtout, c'est le budget, et je veux voir dans le budget quelles sont les intentions du gouvernement. La relance économique, là, tous les indicateurs, quand tu regardes tout pays confondu, les États-Unis, la hausse qu'on va vivre dans la prochaine année, c'est du jamais vu, hein, c'est du jamais vu. Mais comme les gouvernements vont investir beaucoup, ben, j'espère que les champs spécifiques de notre économie, nous au Québec, vont être pris en considération. Les messages que je reçois depuis le début, on cherche des débouchés encore pour l'industrie pétrolière gazière. Il y a un projet qui est complètement fou là, d'hydrogène gris là, qui serait fait à partir des énergies fossiles, un truc qui est complètement non-sens. Et puis, c'est l'électrification des transports. C'est les deux grosses annonces que fait le gouvernement fédéral. L'électrification des transports, ça peut paraître épouvantablement ironique, là, mais la province qui va aller chercher à Port-du-Lion, c'est l'Ontario, la seule province qui donne pas d'incitatif pour acheter de véhicules électriques. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut établir ce rapport de force-là pour que nous, les secteurs qui nous intéressent, la foresterie, l'aérospatiale au Québec, qui est très fort, notre aluminium aussi, soit dans le plan de relance, d'autant que on est les mieux positionnés pour la lutte au changement climatique. Puis le gouvernement n'arrête pas de dire, ben mon plan de relance, ça va être un plan de relance vert. Ben moi, je veux me glisser dans la craque, là. Je veux que mon projet sur la foresterie entre là-dedans. Et j'espère que dans le budget, il y aura quelque chose. On vient de sortir, nous, de 6 séances là, d'études en comité parlementaire là, sur la forêt. Le rapport vient tout juste d'être déposé. Et puis, bon, on a eu de nombreux témoins. J'espère que le gouvernement va entendre ça.
Bon, on va suivre ça. Mario Simard, merci beaucoup.
Plaisir, messieurs. Bonne
journée.
Prochaine,
au revoir. Salut. Mario Simard est député du Bloc dans Jonquière, 11h40.
Pour nous joindre via messagerie texte et téléphone, 543-5131, midi pile, KIK 95-7, Saguenay.